9h-11h,
Wendy Bouchard.
Semaine sur Europe 1. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
On va faire ensemble le tour de la question, évidemment, question d'actualité pour commencer avec le bilan de l'attentat de Strasbourg qui s'est encore alourdi ce week-end. Le deuil et les explications attendues une fois de plus. Pourquoi l'auteur de ces tueries, fiché S, était-il dans la nature? Question qui revient depuis une semaine maintenant et au lendemain de chaque drame du genre. À quel moment l'étau se resserre sur ces individus dont certains sont des assassins en puissance, nous le savons. Nos spécialistes nous répondent et vous pouvez les interroger pour mieux comprendre aussi l'opportunité de ce dispositif. Le standard vous est ouvert dès maintenant, ma chère Julie.
Le 39-21, 50 centimes la minute. Vous nous appelez et c'est nous qui vous rappelons.
Et puis à 10h, on vous parle de cette grande expo à la Cité des Sciences sur notre intestin, dont on dit qu'il est notre deuxième cerveau. Stress, dépression, surpoids, diabète. Et si tout se jouait dans notre ventre? Là encore, on attend vos témoignages qui nous éclairent et nous reparlerons d'un livre best-seller qui a inspiré cette exposition, vendu en France à plus d'1 million d'exemplaires, Le charme discret de l'intestin. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous jusqu'à 11h ce matin.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec notre invité pour commencer, Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. Bonjour monsieur.
Bonjour.
6 jours après l'attaque meurtrière de shérif Chekat à Strasbourg, nous avons appris une 5e victime, 11 blessés après cet attentat, dont certains dans un état très grave. Attentat qui soulève une question qui revient trop souvent, Jean-Charles Brizard, les individus fichés S sont-ils assez suivis et assez encadrés? C'est vrai que ce nouveau cas donne la nausée. On sait qu'à quelques heures près, cet individu aurait pu être interpellé à son domicile pour une tentative d'homicide. Comment arrive-t-il toujours à passer entre les mailles du filet? Est-ce qu'ils sont mieux renseignés finalement sur les filatures dont ils font l'objet que nous ne le pensons?
Non, mais c'est simplement une question, je dirais, effectivement récurrente, vous avez raison de le souligner. Ces individus, et c'est un bien, d'abord ils sont fichés, ça veut dire que les services de renseignement font bien leur travail, puisqu'ils arrivent à identifier la menace à travers ces individus, en tout cas une partie de cette menace, j'y reviendrai. Pour le reste, après, ça pose effectivement la question du suivi. Il y a beaucoup d'individus fichés, vous le savez.
20 000
fichier,
aujourd'hui.
Fichier S, 25 000. FSPRT, donc fichier des individus signalés au titre de la radicalisation à caractère terroriste, plus de 20 000 individus. La DGSI, c'est 4 400 fonctionnaires. Ça veut dire qu'on n'a pas les moyens de surveiller tout le monde. Veut dire qu'effectivement, on évalue de manière régulière ces individus. On passe du temps sur eux, sur chacun d'eux. Lorsque, à l'issue d'une période de temps donnée, ça peut être quelques mois, on ne trouve rien sur ces individus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent de matérialiser une intention de leur part de passer à l'action ou de rejoindre une zone de djihad, par exemple, eh bien, on affecte ces ressources à d'autres individus et de sorte qu'au fil du temps, on priorise les choses. On ne suit que ceux des individus dont on estime qu'ils sont les plus dangereux.
À peu près.
Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le haut du spectre, c'est 4000 individus.
C'est énorme.
Qui sont suivis et encore pas de manière permanente, pas
24 heures sur 24,
pas physiquement. Et pas physiquement.
Il y a donc un suivi, on va parler ensuite de l'accompagnement. Le fait est peut-être que ce fichier n'est pas assez coercitif. Il l'est peut-être préventif, mais pas assez coercitif.
C'est pas son but. D'accord. L'objectif de ce fichier, c'est un outil de travail pour les services de renseignement qui permet de surveiller, de suivre des personnes. Typiquement, pour un fichier S, lorsqu'il va passer une frontière, lorsqu'il va faire l'objet d'un contrôle de police ou de gendarmerie, le service émetteur de la fiche S, la plupart du temps la DGSI, sera informé de cet incident, et de sorte qu'elle pourra suivre les pérégrinations de l'individu et se rendre compte si à un moment donné, voilà, il y a peut-être de sa part des éléments qui permettent de penser qu'il est rentré dans une phase de radicalisation plus importante qui pourrait aboutir à un passage à l'acte. Mais l'objectif de cette fiche, c'est proprement ça. C'est une fiche administrative qui n'a pas vocation, bien sûr, à servir d'outil judiciaire ou juridique.
Qui est d'abord une fiche de renseignement, comme sûreté de l'État, avec des personnes concernées qui sont nombreuses, vous le disiez, 4000 aujourd'hui profils plus radicalisés. On en arrive quand même à la triste conclusion à chaque fois. Si cet individu ne présentait pas de signes permettant de croire qu'il pourrait passer à l'acte, alors on n'aurait pas connu l'attentat de Strasbourg, le dernier. Le fait est que ici sont fichées des personnalités très complexes, manifestement, avec des profils justement aussi nourri de complexité.
Bien sûr, et on l'a vu dans le passé avec certains passages à l'acte, des individus étaient initialement dans le haut du spectre, et puis ils sont passés dans le bas du spectre, et sont revenus dans le haut du spectre, vous voyez, c'est un peu en dents de scie,
oui.
De même que la surveillance est en dents de scie, parce qu'on ne peut pas affecter, encore une fois, de manière permanente, les mêmes moyens aux mêmes personnes.
Est-ce qu'on peut sortir du fichage S, au bout d'un certain temps,
bien sûr,
si
on estime qu'il y a vraiment, il y a aucun indice, aucun élément qui permette de penser que l'individu est dangereux, on
au bout
le retire...
De combien de temps
Ça dépend. Un an minimum, mais ça
veut dire qu'on peut sortir du spectre, précisément, qu'on soit dans le bas ou dans le haut à un moment donné.
Tout à fait. Mais nécessairement, c'est un processus, que vous compreniez, qui est humain. Hein, donc on peut se tromper, effectivement. Puis les individus, vous le soulignez à travers votre question, ils se dissimulent de plus en plus. Ils savent qu'ils sont surveillés, donc ils dissimulent leurs intentions. C'est une évidence. Et donc ça devient extrêmement compliqué pour les services, en dépit des moyens qui sont à leur disposition, moyens électroniques en particulier, qui sont parfois très coercitifs, très intrusifs en tout cas. Avec aujourd'hui, depuis 2015, des moyens qui permettent de baliser des véhicules, de sonoriser des lieux d'habitation. Bien sûr, surveillance électronique, d'échange e-mail, etc. Activité sur Internet et surveillance téléphonique. Mais néanmoins, certains individus parviennent à passer au travers des mailles du filet.
Alors,
c'est le cas de celui-ci qui, effectivement, était, lui, retombé dans le bas du spectre. C'est-à-dire n'éveillait plus de soupçons particuliers, était simplement en veille, son dossier était en veille, comme on dit.
Tout cela étant dit, à quoi sert aujourd'hui ce fichage S important et au niveau européen, d'ailleurs.
La question se pose. Oui.
Voilà, on va justement dérouler cette question avec vous, Jean-Charles Brizard, avec les invités qui vont nous rejoindre. Nous parlerons des relais de terrain avec Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, député de la Seine-Saint-Denis, et de la radicalisation plus généralement avec Sébastien Pietrasanta, spécialiste du renseignement de la lutte antiterroriste. Merci d'être avec nous et n'hésitez pas à venir poser vos questions pour mieux comprendre ce sujet aujourd'hui. Les fichiers S, qui sont-ils? Les fichiers S, à quoi servent-ils? Julie, on vous attend.
On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. Le tour de la question sur le fichier S, avec une question Facebook qu'on vous a posée. Le fichier S est-il selon vous un outil efficace contre le terrorisme? Non à 80%, voilà ce que vous avez répondu. Quelques exemples de commentaires. Florian, l'expulsion est beaucoup plus efficace.
On y reviendra.
Jean-Marc, non, il n'est pas efficace puisqu'il les laisse dehors sans surveillance jusqu'à ce qu'ils passent à l'acte. Oui, le fichier S est efficace contre le terrorisme. Encore faut-il l'utiliser en mettant sous surveillance ces personnes, nous dit Samuel. Puis encore deux petits commentaires. Tiens, Patricia, il faut croire que non, puisqu'on ne peut ni les arrêter ni les expulser tant qu'ils n'ont pas flingué quelqu'un. Et puis Benoît, pour se faire une idée, il faudrait connaître le nombre d'attaques terroristes déjouées. Sans ça, cette question n'a pas de sens.
Alors,
est-ce qu'on les connaît, les attaques déjouées, justement?
Ah oui, Jean-Charles Brizard.
Il y en a beaucoup.
Une bonne réflexion.
Il y en a beaucoup. Il y en a 60 depuis 2013. Il y en a 20 l'an dernier, 7 cette année.
Hein. Oui.
Je parle uniquement d'attaques en lien avec l'islamisme radical. Non, le fichier S ne permet pas de prévenir des attentats. Ce n'est pas sa vocation, encore une fois. La vocation du fichier S, c'est de suivre des individus potentiellement dangereux.
Donc, ils sont sous surveillance, contrairement à ce que nous dit l'auditeur. Les laisse sans surveillance.
Ils sont soit sous surveillance, soit en veille des services de renseignement. Mais effectivement, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, en termes d'efficacité, on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que s'ils sont surveillés, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas simplement pour le plaisir de les surveiller. C'est parce qu'on essaye de déterminer, de matérialiser, d'objectiver des indices précis, matériels, qui permettent de dire, voilà, cet individu a l'intention de passer à l'acte, ou cet individu a l'intention de partir sur un théâtre d'opérations extérieures de groupes terroristes. Dès qu'on a des indices suffisants, qu'est-ce qui se passe? Le dossier d'un individu est judiciarisé. Cet individu passe devant effectivement un magistrat, le parquet, puis ensuite un juge, et éventuellement, dans la plupart des cas d'ailleurs, il est placé en détention provisoire. Donc il est neutralisé, entre guillemets, judiciairement et préventivement. C'est ça l'objectif de la surveillance, c'est de pouvoir déterminer des indices très précis, matériels, oui, qui permettent
sachant
de le neutraliser.
Que le fichage est un indice de renseignement signalétique, mais qui n'a pas de pouvoir coercitif, on va le rappeler, Jean-Charles Brizard, vous qui êtes président du Centre d'analyse du terrorisme, et que nous devons rappeler aussi un chiffre triste, mais qui permet d'analyser le problème en connaissance de cause, c'est que 60% des terroristes qui ont commis un attentat ces trois dernières années n'étaient pas fichés par les services de renseignement.
Je le rappelle souvent, ce chiffre, parce que ça permet de relativiser quand même la portée de la fiche S et surtout l'importance de... La nature de la surveillance et de la détection des services. Hein. Il faut relativiser tout ça. Effectivement, plus de 50% des individus qui sont passés à l'acte depuis 2015 étaient inconnus des fichiers, que ce soit S ou FSPRT.
Ce qui n'est pas rassurant.
Donc ça ne donne pas ces fichiers, c'est la raison pour laquelle je dis souvent, ces fichiers ne donnent pas la mesure de l'intégralité de la menace terroriste qui pèse sur notre pays.
Ça veut dire quand même que ce fichier, pour vous, est adapté dans une certaine manière à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre le terrorisme islamiste en particulier.
C'est un outil adapté au travail des services de renseignement. Que font les services de renseignement ? Ils sont en première ligne. Hein. Ils sont en première ligne dans la détection, dans la prévention du terrorisme, la détection, bien sûr, des passages à l'acte potentiels. Donc c'est un outil de travail bien en amont d'un acte terroriste, de sorte que les services, avec des indices suffisants, puissent intervenir et puissent neutraliser l'individu avant qu'il ne passe à l'acte et qu'il ne commette un attentat. Et je rappelle encore une fois qu'il y a un nombre d'attentats très important qui a été déjoué ces dernières années.
Avec 20 000 fichiers S aujourd'hui, comportement potentiellement à risque, chez qui aussi on repère une idéologie dangereuse, radicalisée, islamiste, liée aux mouvances d'extrême gauche ou d'extrême droite, avec 4 000 individus problématiques, c'est énorme, avec un fichier qui existe au niveau européen, ça c'est intéressant aussi de le souligner, Jean-Charles Brizard,
oui, parce que
sa vocation n'est pas ses frontières.
On n'a pas été dans le détail, mais il ne faut pas être non plus trop technique ici, hein, mais la fiche S est une catégorie d'un fichier qui s'appelle le FPR, le fichier des personnes recherchées. Dès lors qu'on inscrit une personne au FPR ici en France, immédiatement, ça emporte inscription au SIS, c'est-à-dire Système d'Information Schengen. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais que dès qu'un individu passe une frontière, en l'occurrence la frontière extérieure à Schengen, il est signalé. Il est dans le fichier et il est signalé à l'ensemble des pays composant l'espace Schengen.
Oui, avec une fiche S qui permet des choses aux enquêteurs, Jean-Charles Brizard. C'est ça aussi sa particularité, lancer des enquêtes judiciaires, des écoutes téléphoniques aussi, c'est-à-dire
sur le plan administratif, on est sur le plan administratif, on peut effectivement faire l'interception téléphonique, interception électronique, on peut baliser des véhicules, on peut sonoriser des lieux d'habitation, beaucoup de choses. Et puis faire de la surveillance physique, effectivement, du suivi d'individus, de la filature, très concrètement. Mais ça implique des effectifs très importants. Donc on limite ça aux cas les plus dangereux, effectivement, parce qu'on n'a pas les effectifs suffisants pour couvrir l'ensemble des individus.
Les cas les plus dangereux, un millier d'individus aujourd'hui, Jean-Charles Brizard.
4 000 individus dans le haut du spectre et quelques centaines, je ne vais pas donner les chiffres précis, c'est pas la peine, qui font l'objet d'un suivi 24 heures sur 24.
Maude nous écrit de Rouen sur la page Facebook, les fichiers S actuellement en prison bénéficient-ils d'un traitement particulier ?
Non, ils sont suivis là aussi en prison, de la même manière qu'ils le sont à l'extérieur de la prison, par le service de renseignement pénitentiaire qu'on a fait monter en puissance, qu'on a créé puis qu'on a fait monter en puissance ces dernières années, et qui a vocation effectivement à être beaucoup mieux doté qu'il ne l'est aujourd'hui, de sorte qu'on puisse avoir un travail beaucoup plus fin, beaucoup plus serré sur les individus qui sont en prison, parce qu'on le sait, beaucoup d'individus, 1 500 individus qui sont entrés en prison pour des faits de droit commun, se sont radicalisés en prison.
Et ce sont les services pénitentiaires qui éclairent sur ces profils de radicalisation. On fait le tour de la question ce matin sur Europe 1 avec vous, Jean-Charles Brizard, sur cet outil, le fichier S, aujourd'hui dispositif intéressant, important, qui ne permet pas d'écarter tous les attentats, évidemment. 60% des terroristes ayant commis un attentat ces trois dernières années n'étaient pas fichés S, mais c'est un dispositif qui permet un meilleur suivi. On vous en parle. N'hésitez pas à témoigner. Et je reçois dans un instant Jean-Christophe Lagarde, député de la Seine-Saint-Denis, qui veut témoigner du rapport de ce fichier S au terrain. Et Sébastien Pietrasanta, spécialiste du renseignement et de la lutte antiterroriste. À tout de suite sur Europe 1.
On retrouve Wendy Bouchard et son invité Jean-Charles Brizard, qui est président du Centre d'analyse du terrorisme. On parle du fichier S et de son efficacité.
Absolument. Est-il un outil efficace contre le terrorisme ? C'est une question qui revient à chaque attentat. L'auteur présumé de l'attentat de Strasbourg, Chérif Chekat, abattu jeudi soir par la police, aurait-il pu être mieux suivi par les services de renseignement ? C'est une question qui a été largement partagée ces derniers temps. Vous dites que cet outil à 80% pour vous n'est pas efficace, mais on vous permet d'en comprendre aussi la complexité avec avec notre invité aujourd'hui. Quand on sait à quoi il sert, nous dit Alain sur la page Facebook, c'est un outil policier et non pas judiciaire comme certains le croient, et c'est un excellent outil. Voilà, pour les enquêteurs, pour les policiers, les gendarmes, c'est un outil classé secret défense, qui est uniquement consultable par les services de renseignement, mais qui est opérant à cet effet, Jean-Charles Brézard.
Pas que par les services de renseignement, par les services de police, par les services de sécurité de notre pays. Effectivement, encore une fois, je l'ai dit au début, c'est un outil qui est destiné à suivre des individus, à assurer la surveillance d'individus. Donc, lorsque l'individu va passer une frontière, être contrôlé, quel que soit le motif d'ailleurs, les forces de sécurité qui consulteront le fichier des personnes recherchées, effectivement, verront que son nom apparaît et auront d'ailleurs l'indication également du comportement à adopter face à l'individu. En l'occurrence, face à des fichiers S, le comportement à adopter, c'est effectivement recueillir du renseignement et surtout ne pas éveiller des soupçons de la part de l'individu. Parce que l'objet de cette fiche, l'intérêt de cette fiche, c'est qu'effectivement, l'individu qui est fiché ne soit pas au courant lui-même qu'il est fiché.
Évidemment, ils ne le savent pas.
Oui. Exactement.
Sébastien Pietrasanta est avec nous, ancien député socialiste et spécialiste du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On relance sur Europe 1 la question sur l'opportunité de ce fichage européen qui revient dans le débat avec l'attentat de Strasbourg, évidemment. Beaucoup de questions qui se posent encore sur le profil du meurtrier, sur la difficulté par exemple que les enquêteurs ont pu avoir pour le cerner. Des zones d'ombre, des paradoxes toujours sur ces fichiers S, mais un outil qui permet pour vous d'avancer quand même, même si il revient dans le débat perpétuellement que finalement les fichiers S sont laissés dans la nature et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à les intercepter. Sébastien Pietrasanta.
Oui, c'est malheureusement un débat qui revient après chaque attentat. Ça peut être un débat qui peut être légitime, mais en même temps, je crois qu'on apporte à chaque fois les mêmes réponses. C'est-à-dire que Jean-Charles Brézard vient de l'expliquer à l'instant, c'est un outil parmi tant d'autres au service des renseignements. Ce n'est pas un outil qui indique la dangerosité d'un individu, c'est un outil administratif qui est utilisé par les services de renseignement pour pouvoir recueillir de l'information. C'est comme les interceptions téléphoniques, c'est comme la géolocalisation, comme la sonorisation d'appartements ou de véhicules. Ça permet de récolter de l'information qui sont ensuite exploitées par les services de renseignement.
Alors la question se pose, est-ce qu'il ne faut pas le rendre plus coercitif ce dispositif ? Nous avons une question d'Antoine de Marseille qui nous écrit sur Facebook. Pourquoi donc ne pas incarcérer un certain nombre de fichiers S au profil inquiétant ?
Mais il n'y a pas de profil S au service au profil inquiétant. Les fichiers S, elles sont détectées, elles sont utilisées encore une fois pour recueillir de l'information. Il ne faut pas confondre ce que j'allais dire avec le FSPRT, qui est le fichier de signalement de prévention de la radicalisation en vue du terrorisme, qui a été créé en 2015 et qui comporte à peu près 20 000 noms, dont 14 000 suivis par les services de renseignement, qui là recense les personnes radicalisées. Et ce fichier, ce FSPRT, permet justement d'assurer un suivi individualisé par les services de renseignement dans chaque département et avec une cellule de suivi départementale qui permet d'éviter d'avoir des trous dans la raquette. En l'occurrence, d'après les informations que nous avons, Chérif Chekat a été suivi par les services de renseignement, comme d'ailleurs les frères Kouachi.
Oui.
Sauf que les frères Kouachi, il y a eu pendant presque 2 ans des écoutes téléphoniques qui malheureusement n'ont rien donné. C'est la même chose avec Chérif Chekat. Le secrétaire d'État, Laurent Nunez, qui est quand même l'ancien patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, donc le service leader en matière de lutte contre le terrorisme, a expliqué qu'il n'y avait pas de vocation de la part de Chérif Chekat à passer à l'acte d'après les éléments qui avaient été donnés par les services de renseignement.
Voilà, manifestement un manquement là sur le profil psychologique. Il y a des régions où les fichiers S sont un peu plus représentés qu'ailleurs. 10% en Alsace, c'est un chiffre de l'an passé, avec des outils supplémentaires qui ont déjà été mis en place, par exemple dans cette région, dans le Bas-Rhin, le département. Une cellule pour détection avec des représentants des forces de l'ordre et du renseignement, du parquet, de l'éducation nationale. Donc il y a des dispositifs qui sont de plus en plus nourris, mais on a le sentiment qu'en face, les terroristes savent de plus en plus et qu'ils ne manquent pas d'agir néanmoins parce qu'ils savent, eux, comment passer à travers les mailles du filet. C'est bien le problème, Sébastien Pietrasanta.
En fait, depuis 2014, donc avant la vague d'attentats, c'était le premier plan anti-radicalisation du gouvernement qui date d'avril 2014.
Oui.
a été mis en place dans chaque département ce qu'on appelle une cellule de suivi. Deux types de cellules, en fait, de suivi. Un type de cellule sur le suivi des individus dont je vous ai parlé, et puis une cellule un peu en matière de prévention sur la prise en charge d'individus, notamment, j'allais dire, les moins radicalisés, de type des lycéens qui se convertissent.
D'accord.
Et qui commencent à s'isoler. Et donc, il y a cet accompagnement qui se fait, parce qu'il faut vraiment agir en amont et en termes de prise en charge. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, il y a parfois cette volonté de dissimuler ses véritables intentions. Mais j'allais dire, c'est d'une certaine manière assez classique. Un terroriste ne va pas crier sur tous les toits qui veut passer évidemment à l'acte. Donc il y a tout ce travail qui doit être fait par les services de renseignement de pouvoir détecter à la fois les intentions, la préparation matérielle. Et la vraie difficulté, c'est qu'on se rend compte que la préparation matérielle, elle n'est pas forcément très importante, puisque comme l'État islamique l'a encouragé depuis 2014, il y a cette volonté de pouvoir frapper sans forcément avoir de lien direct avec l'État islamique, notamment par les véhicules béliers, par les armes blanches, etc., qui sont difficilement détectables par les services de renseignement.
Alors, on va parler d'autres urgences pour mieux surveiller les terroristes en puissance. Maintenant qu'on a fait un peu le tour sur ce fichage S, sur le suivi judiciaire et administratif, plus précisément de ces individus, on parlera de l'expulsion. C'est une question que lance dans le débat Florian sur notre page Facebook, et aussi de la rétention pour les fichiers S, avec nos invités Jean-Charles Brizard et Monsieur Sébastien Pietrasanta, que vous entendez à l'instant. Avant que Jean-Christophe Lagarde ne nous rejoigne, il est député de la Seine-Saint-Denis et président de l'UDI. N'hésitez pas à réagir vous aussi, à témoigner au 39-21. On est là pour vous éclairer jusqu'à 10h sur le sujet ce matin.
À quoi servent les fichiers S? Qui sont-ils et quels dispositifs les entourent? C'est la question jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités.
Quelle est l'urgence pour mieux surveiller les terroristes en puissance alors que les fiches S, Sûreté d'État, sont utilisées comme capteurs d'informations qui remontent aujourd'hui vers les services? À certains égards, elles sont très utiles, ces fiches, pour permettre justement le suivi. Jean-Charles Brizard nous en parle depuis 10h, président du Centre d'analyse du terrorisme. Sébastien Pietrasanta nous a rejoint, spécialiste du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, avec évidemment une menace terroriste qui évolue, le danger changeant de forme et de formule, nos outils doivent également évoluer. Jean-Charles Brizard est quasiment au quotidien.
Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais rajouter, c'est qu'effectivement, on est dans une menace terroriste qui a évolué hein, depuis 2015. On voit bien que les passages à l'acte aujourd'hui, emploient des modes opératoires qui sont improvisés, des armes qui sont de plus en plus rudimentaires, à l'exception de certains individus qui, ayant déjà un pied dans le passé, dans la grande criminalité, ont accès à des armes. Pour l'essentiel, on est face à une menace qui, effectivement, emploie des armes rudimentaires, des armes blanches, des véhicules, etc. Et où le lien également entre les individus qui passent à l'acte sur le terrain et les organisations terroristes est de plus en plus virtuel, quasi, parfois d'ailleurs même inexistant. Il n'y a pas eu de contact préalable, il n'y a pas d'échange d'ordre reçu par une organisation à l'étranger, ce qui rend donc d'autant plus difficile la détection de ces préparatifs par les services de renseignement, là où à l'époque, il y a 10-15 ans, il y avait encore de nombreux préparatifs qui étaient mis en œuvre par ces individus. Aujourd'hui, c'est très improvisé.
Bien sûr, Sébastien Pietrasanta, on a Chevalier Martial sur le hashtag Europe 1 qui réagit. Si on ne peut pas les surveiller, tous les surveiller, alors on les expulse. Il faudra attendre combien de victimes pour réagir? Expulsion de fichiers S dans l'état de droit qui est le nôtre, aujourd'hui, c'est impossible, Sébastien Pietrasanta?
Non, mais je veux bien qu'on à chaque attentat, on cherche à les solutions de facilité, mais rappelons quand même un chiffre qui a été donné par le ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines. Il n'y a que 16,5% de personnes radicalisées de nationalité étrangère. Donc, ne nous voilons pas la face et ne nous masquons pas les réalités du problème. C'est un enjeu qui est aussi lié à notre pays et lié à notre histoire. C'est-à-dire que nous avons des terroristes qui sont français et qui agissent sur notre territoire national. Et donc, Nier cela, c'est ne pas régler un certain nombre de difficultés et de problèmes. Donc, il faut regarder la réalité en face. Nous avons ce problème-là, nous avons cette difficulté-là. Et par ailleurs, sur les étrangers qui ont été condamnés pour terrorisme et qui ont purgé leur peine en prison, il y a eu une augmentation très importante et très significative sur laquelle le ministre de l'Intérieur ne veut pas communiquer les chiffres. Mais d'après nos informations, il y a évidemment une augmentation des expulsions vers les pays tiers. Donc les expulsions se font, mais ça ne réglera pas le problème de fond qui est que nous sommes confrontés, la France comme d'autres pays européens, sont confrontés de manière durable à un problème de terrorisme endogène.
Christophe nous écrit de Rennes et aimerait savoir, messieurs, comment fonctionne la surveillance au niveau européen sur le fichage notamment. Est-ce qu'il y a une concertation aujourd'hui, Sébastien Prétrasanta?
Alors, il y a plus qu'une concertation puisqu'il y a un fichier commun qui s'appelle le SIS et qui permet à chaque pays de pouvoir alimenter un fichier commun qui est utilisé par l'ensemble des forces de police. Et à chaque fois qu'il y a un contrôle d'identité, c'était le cas par exemple le 14 novembre 2015 de Salah Abdeslam, quand oui. Il est contrôlé par les commissaires alors qu'il est en fuite, il y a une alerte qui est faite par les gendarmes. Ils appellent ce qu'on appelle le bureau Sirène France. Et le bureau Sirène, malheureusement, la fiche était mal remplie pas dans les bonnes cases par nos compatriotes belges. Mmh. Et donc, il le relâche. Mais il y a effectivement ce fichier commun qui a été largement mieux alimenté par l'ensemble des pays de l'Union européenne à l'échelle après le 13 novembre.
Oui, Gérard nous écrit de Cap-Breton. Y a-t-il un croisement, Jean-Charles Wiesler, des fiches S avec les clubs de tir? Alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est intéressant, sa question, justement.
Alors, il y a eu effectivement plusieurs incidents, notamment à Paris, on s'en souvient, sur les Champs-Élysées, où un individu avait pu utiliser pour un projet d'attentat une arme qu'il détenait légalement. Mm-hmm. Depuis lors, il y a eu effectivement un croisement des fichiers entre le détenteur d'armes ou d'autorisation. D'autorisation de détention d'armes, je vais y arriver, et les fichiers, effectivement, et on a découvert, je crois, ça a été dit, à peu près une centaine d'individus qui étaient en détenteurs légalement d'armes et qui étaient pour autant fichés S, mais cette situation, donc on y a remédié.
Donc ce croisement existe, voilà.
Bien sûr.
Alors, juste peut-être une précision, c'est vraiment... c'est au sein du FSPRT, donc le fichier des personnes radicalisées, qu'il y a un certain nombre de cases et la question de l'appartenance à un club sportif et en l'occurrence à un problème à un club de tir est vraiment quelque chose d'identifié de manière prioritaire.
Le relais de terrain pour tout ce suivi, l'accompagnement, notamment du côté des maires, des élus locaux. On va en parler avec notre troisième invité, Jean-Christophe Lagarde, qui nous rejoint après la pause. Sébastien Prétrasanta, merci de votre présence, de vos témoignages et éclairages en qualité de spécialiste du renseignement et de la lutte antiterroriste. Jean-Charles Brézard, vous restez avec nous, président du Centre d'analyse du terrorisme. Les moyens importants mis pour lutter contre le terrorisme autour du fichage, notamment, ce n'est pas le seul outil, mais il existe et on fait le tour de la question sur ce sujet. Sujet de préoccupation majeure ce matin. À tout de suite avec
le
vous,
tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public.
Europe 1.
Et on retrouve Wendy Bouchard et ses invités. Nous parlons du fichier S aujourd'hui. Nous sommes toujours avec Jean-Charles Brézard, président du Centre d'analyse du terrorisme. Et nous accueillons Jean-Christophe Lagarde, Wendy.
Dans un instant, absolument. Nous sommes 6 jours après l'attentat de Strasbourg. Un 5e mort, nous l'avons appris hier, et 11 blessés. Avec le fichage en général, dont on se demande s'il est adapté à la lutte contre le terrorisme islamiste en particulier. Alors, les Français, le grand public connaît bien, Jean-Charles Brézard, le fichier S, mais on en connaît aussi les limites. Il connaît moins le FSPRT dont vous nous parliez tout à l'heure, 20 000 individus fichés dans ce fichier de signalement pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Donc là, on est vraiment dans une nomenclature plus précise pour les actes de terroristes et pas pour les groupuscules d'extrême droite, les zadistes, les radicaux d'autres genres.
Tout à fait. Autant la fiche S, hein, qui est elle-même une catégorie du fichier des personnes recherchées FPR, est un outil de recueil d'informations, au même titre que de l'interception téléphonique, du balisage ou de l'interception électronique notamment, mm-hmm. de messages. C'est un outil donc au service du renseignement. Autant le FSPRT est un outil de gestion d'individus, effectivement, où sont recensés l'ensemble des signalements, en fait, qui proviennent soit des familles, soit des préfectures, soit des services de l'État, bien sûr, d'individus qui sont donc signalés au titre de leur radicalisation à caractère terroriste, donc très clairement radicalisation caractère islamiste radical. Et donc c'est un outil là véritablement de gestion. Hein,
créé en 2015, très récent.
Créé en 2015, oui, on a effectivement des individus qui seront mieux surveillés que d'autres parce que considérés comme plus dangereux, c'est le haut du spectre. Et puis il y a des individus qui se situent dans le bas du spectre et qui eux font l'objet simplement d'une veille régulière. Mais donc c'est vraiment un outil de régulation en réalité de la capacité de l'État à suivre, à surveiller ces personnes.
Mais qui permet aussi d'autres usages, notamment des perquisitions plus facilitées en période d'état d'urgence, ce que ne permet pas le fichage S aujourd'hui, Jean-Charles Brézard.
Oui, enfin ça permet en tout cas d'identifier les individus potentiellement, enfin ceux qui sont susceptibles effectivement d'être perquisitionnés, mais encore une fois, ces fichiers, que ce soit la fiche S ou le FSPRT, ne sont pas des outils judiciaires, ce sont des outils administratifs, l'un pour les services de renseignement et l'autre pour gérer des individus considérés comme potentiellement dangereux.
Nous avons Milad avec nous depuis Boulogne-sur-Mer, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci monsieur de venir échanger dans cette émission sur le fichage. Vous avez une question pour notre invité, ou une réflexion en tout cas?
Oui, en fait, j'ai une petite proposition. Les gens qui sont fichiers S, qui ne sont pas encore passés à l'acte, on peut par exemple le faire rencontrer avec des gens musulmans normaux, enfin des gens qui ne sont pas radicaux, et qu'ils essayent de leur expliquer des versets de Coran sur lesquels les autres fichiers S parfois s'appuient ou mal, ils comprennent mal. Donc c'est un travail de théologien.
Oui.
Donc ils essayent de leur dire que les versets que vous comprenez de telle façon n'est pas ça, mais ils veulent dire d'autres choses, quoi. L'interprétation, c'est pas ça.
Mais donc, vous prenez le dialogue et le face-à-face, Milad, et c'est tout à votre honneur, sauf Jean-Charles Brézard, pour répondre à notre auditeur. L'idée quand même d'un fichage, c'est que le principal intéressé ne soit pas au courant
bien
qu'il
sûr,
l'est.
La vocation,
ça, le problème.
C'est très clairement à l'encontre de la vocation même du fichier, à savoir qu'il doit être, bien sûr, il doit demeurer secret, y compris, et surtout d'ailleurs, je dirais, pour l'individu lui-même qui fait l'objet d'un fichage.
Mais il y a un travail de pédagogie que souligne notre auditeur ici, qui est
tout
nécessaire.
Tout à fait, qui est du ressort de l'État, qui est du ressort de l'éducation nationale, de beaucoup d'institutions qui s'engagent et qui sont engagées au travers de différents plans nationaux de lutte contre la radicalisation, à l'initiative notamment du CIPDR. En tout cas, le CIPDR est à la commande. Comité interministériel pour la lutte contre la radicalisation en particulier, la délinquance. Donc oui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, effectivement, y compris dans le domaine du contre-discours, pas suffisamment à mon sens, mais il faut aller beaucoup plus loin. Mais ce n'est pas la vocation des services de renseignement, si vous voulez.
Pas des renseignements,
des services de
mais
police.
Milad, vous-même, vous êtes musulman.
Non, je ne suis pas musulman, je suis d'origine égyptienne, je suis chrétien copte.
D'accord, mais vous pourriez, avec des amis, par exemple, pour essayer de nourrir une exégèse honnête, j'allais dire, rencontrer ces radicalisés en prison, par exemple.
Comment ça se passe en Égypte, par exemple, beaucoup de gens, des djihadistes qui sont passés à l'acte, après, ils ont dit qu'ils sont mal compris.
Oui.
Et dès qu'ils se sont rencontrés des gens qui ont expliqué un peu des versions qui sont mal comprises. Hier même, j'ai entendu quelqu'un aux États-Unis comme ça. Et donc, parfois, ces gens-là, ils sont à mi-chemin, ils sont perdus, ils ne savent pas. Et leur cahier, dont ils ont essayé de leur expliquer des choses tout à fait faux. Et eux, ils veulent juste quelqu'un qui leur dit non, ça c'est le versant.
Pour le remettre dans les droits chemins, Milad, alors qu'en l'occurrence, en prison, on note aujourd'hui l'inverse. Alors je ne parle pas des quartiers d'isolement pour s'y radicaliser, mais la radicalisation en incarcération, on sait bien qu'elle existe, Jean-Charles Brézard.
Il y a des initiatives qui sont prises, je l'ai dit, par l'État, bien sûr, pour tenter de, non pas de déradicaliser, parce que j'estime que c'est totalement impossible, mais en tout cas de désengager ces individus d'un cycle qui les amène vers la violence. y compris bien sûr en milieu carcéral, parce que milieu pénitentiaire, parce que c'est là effectivement que des basculements s'observent et de manière massive. Donc c'est fait. Le problème, c'est que les résultats aujourd'hui, on ne les voit pas arriver. On a très peu de retours en réalité sur les initiatives qui sont prises. Et il y a beaucoup de programmes qui sont lancés, je l'ai dit, par l'État, qui vont s'échelonner dans les années qui viennent. Hein, mais encore une fois, on est venu assez tardivement en France à considérer qu'on peut effectivement tenter de, comme le dit le monsieur, raisonner ces individus.
Merci Milad pour votre appel. Marie nous rejoindra dans un instant, alors que nous désespérons de joindre Jean-Christophe Lagarde. Nous sommes désolés, mais en tout cas, il fut maire de Drancy. Il est député aujourd'hui. Il voulait réagir, et vous le ferez avec nous, Jean-Charles Brézard, sur la circulaire Castaner, qui depuis quelques semaines permet aux élus de terrain d'avoir accès à des informations sur les citoyens radicalisés de leur commune. Voilà, c'était une demande des élus. À quoi ça peut servir aujourd'hui? Eh bien, on fait le tour du sujet dans un petit instant sur Europe 1 avec vous, Gélie.
Avec le bilan de l'attentat de Strasbourg qui a fait, je vous le rappelle, 5 morts et 11 blessés, la polémique sur le fichier S revient autour de son utilité et de ses limites. On en parle avec Wendy Bouchard et son invité Jean-Charles Brézard, président du Centre d'analyse du terrorisme.
Avec la question de la surveillance, des radicalisés, le problème de la coercition, évidemment, on en parle depuis tout à l'heure. Locotte nous dit sur Twitter, hashtag Europe 1, nous sommes dans un état de droit, on ne peut pas emprisonner ou expulser quelqu'un, encore faut-il qu'il soit étranger d'ailleurs, parce qu'il pourrait passer à l'acte. C'est bien évidemment la limite de l'action aussi des différents services sur le sujet, Jean-Charles Brézard.
Oui, bien sûr. Encore que sur l'expulsion, l'expulsion est un acte administratif. Si le ministère de l'Intérieur estime que des individus posent un risque en termes d'ordre public en particulier, on pourrait parfaitement imaginer de pouvoir expulser ces individus sans beaucoup de contraintes, à part le fait effectivement de ramener quelques éléments probants que cet individu peut poser un problème de sécurité en France. Je rappelle qu'il y a 3300 individus de nationalité étrangère fichés aujourd'hui, FSPRT. C'est une politique qui, par exemple, est mise en œuvre de manière extensive par certains pays, certains voisins, hein, comme l'Italie, qui a expulsé depuis 2015, je crois, 350 ressortissants étrangers soupçonnés de radicalisation ou soupçonnés de lien avec le terrorisme. Donc,
ça fonctionne chez eux ?
C'est un choix qui a été fait. On constate une chose évidente, c'est pas nécessairement lié à cette politique, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'attentat en Italie depuis cette date. C'est le fait aussi que les terroristes, bien sûr, il y a d'abord très peu de djihadistes italiens, beaucoup moins que de djihadistes français engagés en Syrie, en Irak, et donc la menace est moins pesante et moins forte, mais effectivement il y a cette politique qui est mise en œuvre, donc on pourrait très bien l'imaginer. Pour le reste, j'en ai parlé, et encore une fois, il ne faut pas résumer non plus, il faut faire attention, parce que à force de parler de ces fichiers, on a l'impression qu'on résume la lutte antiterroriste à ces fichiers.
Bien sûr, non, hein, c'est un outil.
Je ne voudrais pas que ça donne cette impression-là. C'est un outil, voilà.
Il y a bien d'autres
outils et moyens beaucoup plus efficaces pour lutter contre le terrorisme. Je rappelle quand même que depuis 2014, on a condamné, les tribunaux français ont jugé et condamné 360 personnes pour des infractions terroristes. Ce travail est considérable. À l'heure actuelle, à l'heure où l'on parle, on juge une personne tous les deux jours en France pour infraction terroriste.
Vous êtes le premier à savoir que c'était intéressant de remettre les points sur les i, alors qu'à chaque fois on nous dit cet individu est fiché S, il passe au travers les mailles du filet. À chaque fois on se dit que ce dispositif est inopérant. Or, on en comprend aujourd'hui les limites, par essence même. Jean-Christophe Lagarde aurait dû réagir, mais vous allez le faire très bien, Jean-Charles Brézard, sur ce que demandaient un certain nombre d'élus de terrain, les maires en particulier, qui souhaitaient avoir accès d'une certaine manière à ces fichiers. Alors, il y a une circulaire qui a été signée le 13 novembre dernier par Christophe Castaner, qui peut, dans certains cas très précis, leur permettre d'avoir accès à ces informations concernant les citoyens de leur commune, citoyens radicalisés de leur commune. Comment ça peut fonctionner, cette histoire?
Alors oui, cette circulaire du 13 novembre signée par le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, elle correspond à une demande en réalité légitime de la part des maires, formulée depuis longtemps. Pourquoi? D'abord parce que la physionomie de la menace a changé. Je l'ai un peu dit, mais en réalité, on est face à une menace qui est endogène, qui est diffuse, et surtout, qui est présente sur l'ensemble du territoire national. En majorité, aujourd'hui, les terroristes frappent en province, non plus à Paris. Ça veut dire que ce sont des villes, effectivement, de province, Strasbourg en est un exemple, malheureusement, qui sont frappées, qui sont visées en premier lieu. Donc ces maires, légitimement, demandent quoi ? Demandent à avoir accès, effectivement, à un certain nombre d'indicateurs ou d'éléments qui permettent d'évaluer d'abord la menace pesant sur le territoire de leur commune, et deuxièmement, constatant que, et on l'a dit, que les services de l'État sont débordés par ce phénomène en réalité, qui n'ont pas les moyens de suivre tous ces individus.
Essayer de prendre le relais avec leur police municipale,
essayer,
par exemple.
Voilà, dans une coproduction qui serait quand même bienvenue, dans la mesure où on est face à un phénomène massif de radicalisation, que l'État s'appuie davantage sur d'autres acteurs, y compris sur des acteurs locaux. Notamment que sont les maires. Et c'est ce qu'ils demandent, et je crois que c'est le bon sens, finalement. Mm-hmm. Moi, j'y travaille, aux côtés de Christian Estrosi, le maire de Nice, qui m'a demandé de l'accompagner dans cette démarche de mise en œuvre de la circulaire Castaner. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, les maires ont à leur disposition de très nombreux capteurs, sociaux, éducatifs, associatifs, sanitaires, etc. Autant de capteurs auxquels n'ont pas accès les services de renseignement. Les services de renseignement, encore une fois, ils travaillent dans un cadre qui est extrêmement défini.
Complètement, ils pourraient être vraiment des relais d'acteurs.
Ils pourraient être des relais, des capteurs, des capteurs de signaux faibles, de basculement ou de radicalisation. Et c'est dans cet esprit-là, c'est un premier pas, cette circulaire. Mais je crois qu'à terme, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir partager l'identité de ces fichiers S avec les maires de certaines communes, ceux qui sont en tout cas outillés pour pouvoir gérer ces individus, les suivre, demander une vigilance accrue de la part des services municipaux au niveau local, pouvoir avoir des remontées d'informations aussi sur certains individus, sur le comportement des individus. Mmh. Donc tout ça me semble aller dans le bon sens, avoir une véritable coproduction et l'engagement d'une mobilisation en réalité.
Très juste, voilà, maillage local et territorial qui nous permet de terminer sur une nouveauté.
Certains demandent l'état d'urgence, qui n'a aucun sens, parce que le retour de l'état d'urgence, dans un contexte de menace permanente, ce serait l'état d'urgence permanent. Moi, je demande, et je trouverais ça tout à fait logique par rapport à ce dont on discute, un état de vigilance en réalité permanent. Et qui mobiliserait tous les acteurs.
Avec des vigies aussi locales qui pourraient être adossées et absolument complémentaires aux autres services.
Le maire, mais aussi le citoyen, tout simplement.
Merci Jean-Charles Brizard, voilà, pour avoir fait ce tour de la question avec cette innovation, cette circulaire Castaner qui peut permettre aussi d'activer la lutte antiterroriste sur les différents terrains très locaux. Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme, merci de votre présence. On fait une petite pause avant un sujet qui, là, va vous parler. Si vous êtes victime de maux de ventre réguliers, vous irez peut-être voir cette exposition où vous avez peut-être lu un best-seller d'une jeune doctorante en médecine allemande vendu à 1 200 000 exemplaires en France, s'appelait Le charme discret de l'intestin. Il y a une grande expo qui parle de notre deuxième cerveau, Julie. N'hésitez pas à réagir jusqu'à 11h.
C'est ce qu'on appelle le ventre. Alors
exactement. À tout de suite.